Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Je vous présente l'épisode 62 du podcast Ma Juste Valeur. Et dans cet épisode, je vous partage les 5 erreurs à éviter si vous souhaitez obtenir une augmentation. Cet épisode m'a été inspiré par Stella, que j'embrasse et que je salue. D'après un article publié par le journal The Guardian en 2022, seule une femme sur cinq ayant demandé une augmentation de salaire l'avait obtenue, contre un peu moins d'un tiers des hommes. Cet article illustre à lui seul la réalité du monde du travail pour les femmes et la différence de traitement sourde et silencieuse qu'elles subissent. Il explique aussi mon engagement et les raisons pour lesquelles j'ai créé le podcast et tous les accompagnements portés par l'entreprise Ma Juste Valeur. Pour éduquer les femmes financièrement, leur apprendre à gagner leur vie et obtenir la reconnaissance salariale qu'elles méritent, grâce à des outils concrets et pratico-pratiques. Alors, si en 2023, vous faites partie de ces femmes ou de ces hommes qui avaient demandé une augmentation sans l'obtenir, ce Negotiation Monday est pour vous, car je vais vous partager les 5 erreurs à éviter si vous souhaitez obtenir une augmentation cette année. Erreur numéro 1. Arriver les mains dans les poches. Alors, c'est l'erreur la plus fréquente que j'observe dans ma pratique. En effet, la plupart d'entre vous pensez qu'une augmentation de rémunération est un sujet que l'on aborde à la fin de son entretien annuel, une fois que l'on a balayé tous les autres sujets. Et que cela ne nécessite pas forcément énormément de préparation, car de toute façon, votre manager a déjà énormément de visibilité sur le travail que vous avez effectué cette année. C'est faux. Et oui. Pour obtenir une augmentation, la première étape consiste à bien se préparer et s'assurer que notre projet respecte la règle des 2 B. Le bon moment et les bonnes conditions. Le bon moment, c'est quand demander. Et les bonnes conditions, ça veut dire comment se préparer. Alors, quel est le bon moment? Comme on l'a vu, c'est certainement pas lors de votre entretien annuel de fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'une augmentation se prépare 3 à 6 mois à l'avance, car les augmentations se décident 3 à 6 mois à l'avance. Si vous attendez l'entretien annuel, vous arrivez après la guerre, les enveloppes sont déjà fixées et figées, et la réponse que vous risquez d'obtenir, ou que vous avez d'ailleurs peut-être obtenue l'année dernière, c'est « Ok, j'en prends note pour l'année prochaine ». C'est pourquoi il faut envisager votre augmentation comme un projet qui s'inscrit sur le long terme et qu'il faut absolument préparer. Les bonnes conditions, c'est quoi? C'est comment je vais justifier que je mérite une augmentation? Ben oui, n'oubliez pas que dans le monde de l'entreprise, une augmentation est censée soit marquer votre surperformance ou une contribution exceptionnelle ou bien parce que votre périmètre a augmenté et que du coup, il n'est plus aligné avec votre contrat de départ et les fonctions qu'on vous a attribuées lors de votre entrée dans votre entreprise. Mais la vraie question, c'est comment prouver cela? Eh bien, je vous propose d'user et d'abuser de l'outil que j'ai créé spécialement pour cette problématique et qui s'appelle le ratio contribution-rétribution. Si vous voulez plus de détails sur cet outil, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode numéro 3 de la saison 1 du podcast. Et sinon, je vais vous partager rapidement en quoi il consiste concrètement. Le ratio contribution-rétribution, ça va être votre meilleur ami, car c'est un outil qui va vous permettre de justifier en 2-3 coups de cuillère à peau votre légitimité à obtenir une augmentation. Concrètement, vous prenez une feuille, vous la séparez en 2 colonnes. À gauche, vous notez votre contribution, c'est-à-dire toute la liste des tâches que vous avez effectuées et qui sont dans votre périmètre et toutes celles qui sont au-delà. Et à droite, vous notez votre rétribution, c'est-à-dire tous les éléments qui composent votre rémunération, que ce soit le salaire fixe, le salaire variable et les avantages en nature. Ensuite, vous regardez si le tableau est équilibré ou pas. Si vous constatez que votre colonne contribution n'a pas cessé de s'allonger au fil des années, alors que votre rémunération, elle, est restée au point mort depuis le départ et depuis votre entrée dans l'entreprise, alors vous avez entre les mains la preuve factuelle et rationnelle que vous êtes légitime à demander une augmentation et que votre salaire mérite d'être rééquilibré compte tenu de l'ensemble de votre contribution. Erreur numéro 2, ne pas donner de montant. La seconde erreur qu'il faut absolument éviter, c'est de ne pas donner de chiffres précis quand vous demandez une augmentation. Alors attention, je ne juge pas, hein, évidemment, je sais à quel point ça peut être difficile de demander une augmentation, et clairement, certains et certaines d'entre vous se font violence pour le faire, et une fois arrivés là, ils n'ont pas envie de livrer une bataille supplémentaire. Pourtant, c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut fournir un effort supplémentaire. Parce que si vous ne le faites pas, 99% des efforts que vous avez fournis jusque-là n'auront servi à rien. Parce qu'en laissant votre employeur et votre manager décider du montant de votre augmentation à votre place, vous abandonnez votre pouvoir financier et vous les autorisez à vous donner 15% d'augmentation ou 1% d'augmentation. Du coup, si votre manager arrive la bouche en cœur en vous expliquant qu'il s'est battu pour vous obtenir 2%, bah vous allez avoir du mal à le remercier, mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous allez passer pour l'ingrat ou l'ingrate de service. Donc attention, ça c'est un des gros pièges qu'il faut éviter et dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Vous ne laissez personne décider de votre juste valeur, vous regagnez votre pouvoir financier et vous annoncez clairement combien vous voulez cette année. Avec les bons mots, ça va de soi. Erreur numéro 3. Ne pas prendre en compte la culture de votre entreprise. La troisième erreur à ne pas commettre si vous souhaitez obtenir une augmentation, c'est de ne pas prendre en compte la culture de votre entreprise dans votre stratégie de négociation. On travaille toutes et tous dans des entreprises qui ont une culture différente, des us et coutumes qui varient et qui sont propres à chaque organisation. Certaines ont pour culture de ne jamais toucher au salaire fixe, d'autres de ne jamais donner de primes ou de bonus et d'augmenter uniquement le salaire fixe, et d'autres, elles ne font rien de tout ça et elles n'accordent que des avantages en nature. Donc, si vous voulez que votre demande soit acceptée et acceptable, il faut la caler sur ce qui se fait dans votre entreprise et l'adapter en fonction. Un petit conseil. Je sais que beaucoup d'entre vous ont tendance à dénigrer les avantages en nature. Mais sachez que pour de nombreuses entreprises, c'est plus facile de vous accorder un avantage en nature plutôt qu'une augmentation de votre salaire fixe ou une prime. Parce que les avantages en nature, pour beaucoup d'entre eux, sont indolores financièrement et fiscalement pour l'entreprise. Par exemple, si vous demandez la prise en charge des frais de garde, des frais de crèche, ça revient à peu près à 1 000 euros par mois. Bah, si votre entreprise prend en charge ces frais de crèche, vous, ça vous fait 1 000 euros de dépenses par mois en moins dans votre budget, soit c'est l'équivalent de 1 000 euros net par mois en plus sur votre salaire. Ça n'a pas d'impact fiscal pour vous, ça n'a pas d'impact fiscal pour l'entreprise et tout le monde est content. Vous avez un avantage en nature qui vous permet d'augmenter votre niveau de vie d'environ 1 000 euros net par mois. Et on est d'accord, c'est pas un petit peu, d'accord? Erreur numéro 4, avoir peur du non. Ça, c'est une erreur que j'observe aussi très souvent dans ma pratique. La plupart d'entre vous avez peur du non et du coup, vous arrêtez au premier refus. Pourtant, en négociation, le non, ça ne veut pas dire que c'est la fin, mais bien le début des négociations. Avant le non, il n'y a pas de négociation. Il y a une demande qui est soit acceptée, soit refusée. On n'est pas en train de négocier. Donc, arrêtez d'avoir peur du refus et d'avoir peur du non et construisez à la place une stratégie qui va se décliner en plusieurs options. Option A, option B, option C. Si votre option ou votre plan A ne marche pas, et mettons l'hypothèse que vous souhaitez une augmentation de votre salaire fixe, vous allez passer à l'option B. Vous allez demander par exemple une prime exceptionnelle. Si ça ne marche pas, vous allez passer au plan C, un avantage en nature, etc., etc., etc. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que ces allers-retours sont nécessaires pour ajuster et négocier avec votre entreprise. Et aussi qu'un employeur de bonne foi qui souhaite vous garder sera toujours enclin à trouver une solution pour reconnaître votre juste valeur et reconnaître votre travail. Donc arrêtez d'avoir peur du non et mettez plutôt en place des stratégies qui se déclinent en plusieurs options. Maintenant, erreur numéro 5, baser son argumentaire sur les éléments de votre vie privée. Ça, c'est une erreur aussi que j'observe souvent dans ma pratique. Vous êtes nombreux et nombreuses à essayer de justifier votre légitimité à obtenir une augmentation en utilisant des arguments de votre vie privée, un peu comme si vous essayiez d'amadouer votre interlocuteur ou d'appeler à son empathie. Et ça donne par exemple des arguments comme ceci. Mais tu comprends, je dois déménager, ma famille s'agrandit, je dois payer mon mariage. Je dois envoyer le petit dernier faire ses études à l'étranger. etc., etc., etc. Alors, sachez que c'est la pire erreur à faire, car c'est la meilleure façon de vous décrédibiliser. Parce qu'en vrai, votre manager, ce n'est pas son problème. Et ce qu'il risque de vous répondre, c'est bah, OK, mais en vrai, on a tous beaucoup travaillé cette année et on a tous des projets personnels. Donc pourquoi est-ce que je devrais te favoriser toi plutôt que quelqu'un d'autre de l'équipe? Vous voyez mon point? Donc exit les arguments basés sur les éléments de votre vie privée et bonjour les éléments factuels et rationnels basés sur votre ratio contribution-rétribution. Sachez que si vous utilisez le langage de l'entreprise, c'est-à-dire des arguments basés sur des faits, du rationnel, eh ben en vrai, on n'aura pas d'autre choix que de vous dire oui. Pour finir, je sais que la plupart d'entre vous se font toute une montagne de ces demandes d'augmentation. Et c'est normal, il ne faut pas culpabiliser. N'oubliez pas que vous n'avez jamais été formé à parler d'argent en entreprise. Comme je le dis toujours, l'école nous apprend un métier, mais elle ne nous apprend pas à gagner notre vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé Ma Juste Valeur, pour vous apprendre à gagner votre vie. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.majustevaleur.com. Il y aura forcément un accompagnement qui est fait pour vous et pour votre budget. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.